Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin dans la matinale, nous allons parler musique avec un artiste local. On en parle juste après le générique. Ce matin, pour m'accompagner, je suis en compagnie d'Étienne Abran, sous le nom Abran pour le projet Abran. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Bienvenue. Voilà, bonjour Étienne.
Salut.
J'avais pas lancé ton micro. Bienvenue sur notre antenne à nouveau. Je crois que tu étais déjà venu une ou deux fois, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. J'étais venu pour présenter mon duo French Kiss et son passage à l'Imaginarium Festival.
Là, ce matin, on va parler de ton projet solo, projet électro. Dans quelle catégorie on peut le nommer? Parce que c'est vrai que dans l'électro, il y a beaucoup, beaucoup de styles différents. C'est quel type d'électro?
C'est l'électronique assez ambiante, avec des influences classiques, des influences techno.
Tu es originaire de Compiègne à la base?
C'est ça.
Je crois.
Ouais.
T'as fait tes études au lycée Mirigrelet?
À Pierre Dailly, ouais, c'est ça.
Et c'est quoi l'histoire un peu de ton cheminement dans la musique? T'as commencé il y a 5-6 ans?
Ouais, j'ai commencé il y a 5-6 ans tout seul dans ma chambre à faire de la musique électro. Je passais par un peu tous les styles, faire des reprises, des remixes et tâter un peu les logiciels comme Fruity Loops. Et ensuite, j'ai rencontré des copains qui en faisaient. Ça a formé le duo French Kiss. Puis un autre groupe aussi qui est encore actuel, qui est Elsa. Donc avec des rencontres du lycée et des musiciens avec qui j'étais copain et que je suis toujours copain. Et en fait, en parallèle de tout ça, j'ai toujours fait aussi des sons pour mon projet solo, un peu pour le plaisir. Et depuis l'année dernière, j'essaie de donner une dimension un peu plus pro à tout ça, notamment depuis mon passage aux sélections du Printemps de Bourges.
Comment on arrive à l'électro? C'est quoi qui t'a donné envie? C'est la découverte des machines? C'est le fait que t'avais pas envie de faire le conservatoire et d'apprendre les gammes? C'est quoi exactement?
Alors j'ai fait une école de musique, c'était pas un conservatoire mais c'était une école régionale, j'ai fait de la guitare pendant de nombreuses années, ça m'a bien plu, donc en fait mon expérience musicale part de là. Et ensuite l'électro c'est parce que je suis né à la période où ça s'est démocratisé à fond, donc les premiers sons que j'ai entendus à la radio ou dans les CD, dans les chaînes IFI, c'était de l'électro ou de la pop qui commençait à être un peu électro. Donc en fait j'ai grandi avec et très vite je me suis dit... que j'aimais ça, je me suis dit mais comment on fait de l'électro? Et voilà, en m'enseignant et grâce à internet, j'ai pu voir comment fabriquer moi-même de l'électro.
Pour le groupe Elsa, c'est quel style de musique? Alors dedans, on peut retrouver Alexandre, Cédric, Cécile, donc c'est une fille qui est au chant.
C'est ça.
C'était quoi le style musical? Enfin, c'est quoi le style musical qui est produit aujourd'hui?
Alors c'est de la musique électronique aussi, mais...
Avec du chant.
C'est ça, qui n'a rien à voir, c'est plus chill, ambiance été, vacances, etc. Même si on essaie d'explorer vachement de choses différentes. En fait, on est quatre musiciens et on fait tous des trucs différents. Donc Cédric et moi, on s'occupe de la production plus électronique et on vient tous les deux de la guitare. Et il y a Cécile et Alexandre qui sont tous les deux au chant, qui sont frères et sœurs et qui viennent aussi tous les deux d'école de musique. Alors Alexandre était à la trompette et Cécile à la flûte traversière. Et en fait, ces quatre expériences ont formé Elsa. Et du coup, on joue plein d'instruments, on assemble tout de manière électronique sur ordinateur. Et on essaye de faire plein de styles acoustiques et traditionnels mélangés à l'électro.
Comment on se rencontre quand on est jeune dans l'électro, qu'on est au lycée? Alors moi, à mon époque, c'était plutôt le punk à roulettes. Il y avait des groupes qui jouaient au Zikodrome, donc on voyait des gens faire des groupes, etc. Ça se nourrissait un peu de ça. Comment aujourd'hui, on se nourrit d'électro et comment on se rencontre, à part au lycée, quoi?
Clairement, c'est soit en discussion dans la cour, soit tout de suite Internet. En fait, il y a des amis, on ne soupçonnait pas l'activité musicale. Mais on voit que tiens, il a un compte Instagram ou une page Facebook où il fait de la musique, du coup on prend envie de contact et aujourd'hui je pense que ça va beaucoup plus vite. Donc la plupart du temps ça s'est passé comme ça, un message pour se présenter et puis la connexion se fait et puis on a tout de suite envie de faire de la musique ensemble si le feeling passe.
Donc c'est pas en live qu'on se rencontre, c'est plutôt sur internet quoi, enfin...
Ouais, c'est d'abord sur internet le plus souvent je pense et puis ensuite à Compiègne puisque c'est une ville assez à taille humaine où les gens se connaissent plus ou moins quand même, on va vite quand même à la rencontre. Et puis là pour Elsa par exemple, même si on se connaissait déjà soit parce qu'on était amis soit parce qu'on se voyait de vue au lycée, au final on est très vite arrivé à venez chez nous, venez chez moi, on fait de la musique ensemble dans la cave ou dans un studio. Ouais. Et donc en fait, on lit les deux et je trouve que ça va plus vite et ça fait des belles choses.
Il n'y a pas de lieu de rencontre musique électro à Compiègne. Avant, il y avait le Zenzile qui faisait des concerts électro, des soirs électro. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des endroits où les musiciens ou les amateurs d'électro peuvent se retrouver à Compiègne ?
Alors, moi, il y a eu quelques endroits, mais je pense que ça a été facilité par mon arrivée à l'UTC aussi, parce que c'était pile au même moment quand le groupe se formait, quand mon projet solo prenait un petit peu plus d'ampleur, etc. Et grâce à l'UTC et ses nombreuses associations d'événementiels, j'ai côtoyé le Zenzile, le White House à l'époque, sur les hauteurs de Compiègne, et un peu toutes les boîtes qui autorisaient l'UTC à faire des événements chez eux. Donc, il y a quand même des petits événements de rencontres. Peut-être moins évident pour les gens extérieurs à l'UTC. Mais entre la période lycée et ensuite la découverte des soirées à l'UTC, ça m'a fait quand même découvrir pas mal de gens, que ce soit côté organisateur et côté artiste.
Là, à l'UTC, il y a une bonne scène d'électro. Il y a également SFC, je ne sais pas si tu connais
Ouais, c'est ça.
Association de DJ. C'est quoi la frontière entre le créateur musical qui fait l'électro et puis le DJ qui va passer les sons ? Est-ce que toi, tu fais les deux ? Parce que j'ai vu que tu proposais actuellement des playlists.
Ouais, c'est ça. J'ai fait partie de l'asso Flexion Social Club aussi pendant plusieurs années. Donc, c'était très cool. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de frontière. Il y a beaucoup de gens dans l'asso qui sont aussi créateurs et d'autres qui ne le sont pas du tout, qui viennent vraiment juste pour apprendre à mixer sur les platines, mais qui ne sont pas musiciens. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça mélange un peu plein de styles, plein d'ambitions, des gens qui sont là juste pour kiffer ou d'autres pour s'entraîner, etc. Et puis, tout est compatible. Moi, je faisais de la création à côté, donc j'ai pu discuter ou apprendre certaines choses à des copains, mais sans plus, ça marche très bien ensemble.
D'ailleurs, tu parlais de Fruity Loop, le logiciel Fruity Loop de création musicale. Aujourd'hui, tu utilises quoi comme logiciel de son ?
Alors, je suis passé très récemment cette année sur Ableton, parce que je me suis vraiment rendu compte que c'était plus agréable pour le live, qu'il y avait quand même plus de possibilités selon moi et selon ce que j'ai envie de faire avec ma musique. Du coup, ça faisait plusieurs années que j'étais sur Fruity Loop, donc j'ai eu du mal à m'en détacher et à réapprendre à utiliser un soft. Mais justement, les rencontres que j'ai faites depuis les Inouïs du printemps de Bourges et les gens qui m'accompagnent un peu m'ont aidé aussi sur l'aspect technique, sur la prise en main d'un button. Du coup, finalement, c'est allé assez vite et je suis bien content d'être sur ce logiciel maintenant.
Comment ça se passe la création d'un morceau ? Tu crées d'abord une nappe, une ambiance ? Comment c'est ta façon de créer ?
Alors, j'ai pas encore de recettes que j'applique à chacun des morceaux, c'est un peu au feeling, mais par contre, maintenant que je me suis acheté des machines hardware, comme on dit, donc des vraies synthés analogiques, etc., souvent maintenant, je branche tout ça dans mes entrées, dans mes cartes son, et je joue vraiment à la main une ligne de basse ou une ligne de nappe synthétique, et ensuite, je rajoute les percus au-dessus, et tout le reste vient assez instinctivement avec les idées, quoi.
Le live, c'est quelque chose que t'aimes bien, c'est quelque chose où tu te forces. On connaît des groupes, genre par exemple Petit Biscuit, qui n'avaient jamais fait de live avant. Le projet a un peu explosé. Toi, c'est quelque chose que t'aimes bien, le live, ou tu préfères rester chez toi en train de produire derrière ton ordi ?
Ouais, c'est quelque chose que j'adore vraiment, et j'ai commencé à y toucher un peu plus tard par rapport à la partie production. Avant, je faisais vraiment juste des musiques dans ma chambre, et puis je voyais bien ce que ça donnait quand ça sonnait un peu bien. Je les mettais en ligne, mais ça allait jamais plus loin que ça. Et depuis le passage sur Ableton, depuis les toutes premières dates de concert que j'ai pu faire, j'ai vraiment réalisé l'impact du live et j'aime vraiment ça. Et c'est toujours quelque chose qui m'avait paru complexe à réaliser, c'est pour ça que ça me freinait un peu. Mais maintenant que j'ai mis les pattes dedans et que je m'entraîne à tout configurer, tout programmer. C'est vraiment cool, j'adore ça et j'ai envie d'en faire le plus possible.
Ouais, contrairement à un groupe, t'es tout seul, quoi. Tu peux pas te rattraper sur tes potes en disant allez, c'est à toi de faire le show maintenant.
C'est ça, mais il y a un côté satisfaisant d'avoir tout en main, quoi. Au moins, je connais par cœur tout ce que j'ai programmé comme clip audio qui se lance à tel moment, etc. Donc c'est moi qui gère tout et j'aime bien ça aussi.
Il y a deux EP qu'on retrouve sur internet, un EP original et ensuite il y a un EP de remix qui est sorti juste avant pendant le confinement, je crois, même période. Du coup, depuis un an, il y a des choses que tu es en train de produire, il y a des nouveautés qui vont arriver en 2021 ?
Ouais, c'est ça. Mon tout premier EP, Moons, c'était vraiment ma première création personnelle qui sonnait pour moi plus pro et que j'avais envie vraiment de partager. Et ensuite, notamment avec des rencontres faites sur Internet d'autres artistes avec qui je me suis lié d'amitié aussi, j'ai proposé de faire des remixes. Et ça a plutôt été apprécié. Donc j'ai eu l'occasion d'en recevoir quatre qui m'ont vachement plu. D'où la sortie du deuxième EP. Et voilà, c'était aussi une manière de temporiser un peu et de préparer la suite. Et du coup, depuis l'année dernière, je travaille sur des nouvelles maquettes. Là, j'en ai 5 ou 6 en stock qui vont sûrement donner naissance à un EP en 2021, j'espère. Mais voilà, c'est le projet.
On écoute un extrait, on écoute le titre Chorale. On est sur Graphite, c'est la matinale et on se retrouve juste après. Radio Graphite 94.9, la matinale. On est ensemble aujourd'hui avec Étienne Abran pour parler du projet Abran, musique électronique, ce que vous venez d'entendre un instant dans votre voiture, dans vos oreilles le matin, peut-être dans votre douche. Alors c'est peut-être le moment d'aller se recoucher, hein. C'est une ambiance où c'est un peu dur pour aller au boulot là.
Ouais, je sais.
C'est quoi les ambiances que tu essayes de mettre en musique? Comment est-ce que tu vois la musique en couleur? Est-ce que tu vois la musique en texture? Comment toi tu penses la musique?
Je vois plus la musique en texture. Et il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est les sonorités aériennes. Donc beaucoup de souffle, un peu de vent, un truc assez planant. Beaucoup de nappes comme tu disais. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs couches de nappes ou juste des bruits ambiants ou du craquement, du vent et plein de trucs comme ça qui donnent une ambiance assez aérienne. Et ce que j'aime bien, je parlais un peu de mes styles différents qui s'entrecoupent. c'est de mettre des instrus ou des percussions qui viennent de la techno, qui ont des bruits assez secs avec du grain et tout, et c'est tout cet aspect ambiant derrière. Du coup, bah, ça fait un sorte de mélange entre, bah, y a une rythmique, ça bouge, mais à la fois c'est super pesant et aérien, quoi, donc j'aime bien.
Les sons organiques, c'est des vrais sons que tu vas capter ou c'est des sons, une base de sons que tu récupères ?
Alors, il n'y a pas si longtemps, je me suis constitué ma propre banque de sons. En fait, je suis allé enregistrer dans une salle de percussion de mon ancienne école de musique, justement, avec un micro, mon ordi, une carte son, et je suis resté une demi-journée pour taper un peu sur toutes les percussions, tous les objets, même les murs, le sol. Et en fait, je me suis fait une centaine de sons, de samples de percussions. Et du coup, bah, j'essaie de les utiliser au maximum pour me dire que tout, toute la création dans sa globalité a été faite à la main, quoi.
Là, on a pu te découvrir notamment au mois de décembre dernier dans une émission de Bride Lune, à la Une des Pirates d'Amiens. Là, il y a des choses qui sont en cours. Je crois que tu es en train de travailler avec la Grange à musique de Creil.
C'est ça.
Alors, c'est quoi, c'est un accompagnement? Ils te font des résidences d'artistes?
Alors, c'est pas il n'y a pas de dispositif d'accompagnement officiel encore à Creil, mais il me semble que c'est en chemin. Mais en tout cas, depuis qu'ils m'ont accompagné en résidence pour préparer les Inouïs du Printemps de Bourges l'année dernière, on est resté en contact, le feeling est super bien passé. Du coup, je leur ai reproposé de faire une résidence cette année. Donc, c'est en cours d'organisation. J'espère pouvoir faire ça bientôt. Et du coup, ce serait pour préparer le live 2021 pour être prêt quand les concerts repartiront.
C'est quoi le thème d'une résidence? Qu'est-ce que tu travailles là-dessus? Tu travailles la présence sur scène? Tu es accompagné avec quelqu'un? Un ingénieur du son? Quelqu'un qui te prépare sur la scène?
Ouais, alors, il y a deux types de résidences, en tout cas moi, que je suis susceptible de faire. C'est soit une résidence dans le but de préparer une date précise, donc à l'approche d'un concert, si je sais que je suis programmé, je vais demander une résidence de répétition un peu, où vraiment on va rester quelques jours pour faire tourner le live en boucle, roder des détails, des transitions, et l'aspect technique du live plutôt. C'est ce que j'ai fait notamment pour préparer les Inouïs du Printemps de Bourges, parce que c'était compris dans le package, quoi, de l'offre. Et après, il y a aussi des résidences pour travailler la présence scénique, donner des conseils et voir des choses un peu plus larges que la technique. Donc ça peut passer par une réflexion de qu'est-ce que j'ai envie de jouer comme instrument, ne pas jouer trop de trucs pour se perdre, mais montrer au public vraiment ce que je joue. Donc ça peut passer par incliner les machines. Enfin, ça peut vraiment être des conseils sur comment faire les choses, comment montrer les choses de la bonne manière. Et puis l'aisance scénique, comment bouger, pas regarder ses pieds, etc. Et on n'y pense pas forcément instinctivement, mais c'est super important. Parce que moi, je sais que de nature, je suis assez timide. Donc typiquement, mes premiers concerts, je les passe à regarder ce que je fais, à être concentré sur mes boutons, parce que j'ai envie de réussir mon live. Mais du coup, je ne regarde pas le public, quoi, donc c'est important aussi.
Tu fais un apprentissage en graphisme. Est-ce que c'est quelque chose qui va transpirer sur la scène? Est-ce qu'à terme, tu veux rajouter de la vidéo? Tu veux rajouter une scénographie bien particulière?
Ouais, alors à terme, en effet, parce que c'est vrai que c'est une technologie différente. Il faut pas mal de moyens techniques et même financiers pour pouvoir intégrer tout ça à une scénographie. Mais c'est clairement une idée que je garde. Là, je sais que je commence à rencontrer des gens de plus en plus du milieu dans les résidences, du coup, du côté technique, régie, que ce soit régie son, régie vidéo. Donc, en fait, plus je rencontre des gens qui sont susceptibles de m'aider là-dessus, et plus je me dis que ça va être faisable. Mais ouais, j'ai très envie de faire du graphisme et des visuels pour mon live.
Est-ce que ta musique nourrit ta création visuelle et inversement, est-ce que tes créations visuelles nourrissent ta musique ?
Alors oui, je pense
que... Allonge-toi sur le canapé, on a 2 heures.
Je pense qu'indirectement, il y a clairement cette relation-là. Après, ça dépend dans quelle création, parce qu'évidemment, je suis encore étudiant. Donc
il y a des commandes. Okay.
Voilà, il y a des commandes fictives ou réelles, où là, c'est vraiment de l'exécutif, où je suis obligé d'appliquer des chartes qui sont déjà créées. Donc il y a cette partie du graphisme, et il y a aussi mes créations perso, soit que je fais pour moi, soit que je fais à l'école quand les briefs sont assez libres. Et là, bah, clairement, j'ai un peu ma patte graphique aussi, comme j'ai ma patte sonore. Et je pense que les deux se correspondent. J'aime bien mettre du grain, par exemple, sur mes visuels. C'est quelque chose que je fais beaucoup et qu'on peut retrouver d'ailleurs sur les posts que je fais sur Instagram, par exemple. Donc du grain, des choses très épurées, beaucoup de noir ou de blanc, des couleurs ternes, sobres. Donc voilà, donc oui, il y a cette relation entre la musique et le graphisme.
Là, tu es en apprentissage chez Universal, donc sous le label Caroline. Est-ce que tu as toujours sur toi une petite clé USB si un artiste électro arrive en lui disant tiens, écoute mes sons, on sait jamais, hein, il faut toujours prouver qu'il a la chance.
C'est vrai. Bah, mes collègues savent que je fais de la musique, donc des fois je fais écouter, mais c'est plus pour le plaisir. Après, il y a aussi ce détachement entre l'endroit où je bosse et là où je me vois aller dans ma musique. Je ne me vois pas forcément signer sur une major directement. Et voilà, comme il y a des types de contrats très différents, je ne sais pas encore si j'ai envie de ça et ce que j'ai envie de faire de ma musique. Donc pour l'instant, je détache encore les deux. J'aime trop bosser chez Universal en tant que graphiste. Et puis au moins, ça me fait des contacts, en effet, chez Universal, mais aussi dans plein d'autres labels, que ce soit indépendant, plus petit et peut-être plus intéressant du coup. Pour mon projet.
Ouais, Thomas Henbeek, qui travaille donc à la Grange à musique de Creil, qui a le projet Gordon, a fait son stage chez Infiné, et finalement, après avoir fini son stage, des années après, a signé chez Infiné. Toi, c'est un label que t'aimerais bien, Infiné. C'est quoi, il y a des labels français un peu mythiques que t'aimerais bien ou,
Ouais,
bah, là, tu parles plutôt de labels allemands, je crois.
C'est ça. Bah, moi, il y a un... Alors, ouais, pas français, mais mon label un peu de prédilection, ça s'appelle Key Records. C'est que des Allemands, ça a été créé par Christian Loeffler, qui est un de mes artistes préférés. Et il y a un panel d'une dizaine d'artistes, quasiment tous allemands, il me semble. On peut retrouver dedans Janus Rasmussen, Feschka, Apard, etc. Et c'est des noms pas forcément connus du grand public, mais ils ont vraiment leur direction artistique, ils font le même style de musique. Et c'est là-dedans que je me retrouve pas mal, et je m'inspire de beaucoup de leur sonorité dans mes sons. Et après, en France, ouais, en effet, bah, Infiné, c'est un label que j'adore et que j'admire. Il y a aussi Roche Music, qui correspond moins à ma direction artistique et à moi, mais que j'adore pour ce qu'il propose, dans l'esthétique surtout, qui est super soigné. Et après, il y a aussi un plus petit label indépendant qui s'appelle Délicieuse Musique. Et en fait, c'est un label qui sort des petites sorties, mais il y a des artistes que j'aime beaucoup maintenant, comme Parafortcuva, qui a fait ses débuts sur Délicieuse Musique, et donc c'est un peu un endroit où on peut trouver des pépites, ou des trucs un peu chinés à droite à gauche.
T'es né en quelle année ?
99.
C'est pour toi l'objet, c'est quelque chose d'important ? Est-ce que t'aimerais sortir une cassette audio, ou alors un vinyle, est-ce qu'il y a la matière ? Parce que là, du coup, les EP sont sortis, enfin l'EP est sorti uniquement en numérique ?
Ouais, pour l'instant c'est que numérique, parce que bah, c'est aussi un coût de faire une distribution physique. Le CD, clairement, ça m'intéresse pas trop, parce que j'en ai jamais consommé non plus, et que bah, ça revient pas autant à la mode que le vinyle, par exemple. Le vinyle, c'est un objet que je collectionne moi-même par passion, j'en ai plein, j'aime bien les écouter, je trouve l'objet super beau, et puis ça revient vachement à la mode. Donc ouais, à l'avenir, si je peux sortir un EP et en digital et en vinyle, ce serait trop bien. Et la cassette, c'est vrai que je m'étais jamais posé la question, mais je vois de plus en plus que ça commence à revenir. Là, je suis en contact avec un petit label lillois qui s'appelle Ghost of the Shelf. Et eux, je vois qu'ils font des compilations de différents artistes et ils les sortent aussi en cassette. Donc je trouve ça marrant. Et l'objet est joli aussi, donc ouais, pourquoi pas la cassette.
Ouais, puis le son est pas si mauvais en fait. Mmh. On s'y habitue un petit peu, le son métallique. Ouais. Au départ, c'était un peu mis de côté en disant ah, le son il est pourri. Bon, c'est vrai que ça vieillit pas aussi bien qu'un vinyle et un CD à la limite. Aujourd'hui, les CD sont un peu en train de mourir aussi. Moi, j'en ai des CD qui ont bien 20 ans, la pellicule commence à se retirer. Mmh. Mais c'est vrai que la cassette, ça a toujours son charme. Il faut juste toujours avoir un lecteur cassette à la
fin. Ouais, c'est ça.
On va écouter un extrait de ce que tu nous as ramené à écouter ce matin. Donc justement, Christian Loeffler, le titre Graal, tu nous en parles. Pourquoi tu ce morceau ?
Alors c'est un des premiers que j'ai découvert de Christian Loeffler déjà, donc c'est pour ça qu'il m'a marqué peut-être plus que les autres, et il reflète vachement le côté pesant et très aérien. En fait, Christian Loeffler, il se définit comme un artiste électronique voire techno, mais en fait même s'il a des sons beaucoup plus énergiques, la plupart de ses sons sont très ambiants, très lents, et c'est ça que j'adore et ce que j'ai envie de retranscrire dans mes sons à moi.
Eh bien, on écoute ça tout de suite. Thank you. Graal, avec le morceau de Christian Loeffler, ça se prononce comme ça, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça.
Ouais, sculpteur, je crois que je l'ai dit à la française. On est toujours avec Abraham, on parle de son projet électro que vous pouvez retrouver notamment sur Deezer, sur Spotify, sur Bandcamp. On te retrouve un peu partout, je crois, sur le site internet. En fait, on peut choisir là où on veut aller récupérer les morceaux.
Ouais, c'est ça.
On peut donner, en fait, sur Bandcamp, on peut acheter financièrement, on peut t'aider financièrement.
Ouais, c'est ça. En général, du coup, maintenant, l'idéal, c'est d'être distribué partout parce qu'on n'a plus trop le choix. C'est ce qui se fait. Il faut être présent un peu sur toutes les plateformes que les gens consomment. Et du coup, vu que sur le streaming, c'est pas payant directement.
C'est 0,000.
Ouais, c'est ça. Du coup, je mets toujours aussi les morceaux sur Bandcamp. Ça fait une sorte de boutique en ligne directement où on peut acheter le CD virtuel, quoi. Et du coup, je fais ça à côté pour au cas où, si des gens veulent donner, c'est toujours bénéfique.
Ouais, souvent, c'est soutenir l'artiste, quoi. Parfois,
ouais, c'est plus ça.
Moi, j'ai déjà acheté des albums, je les ai jamais écoutés. Enfin, je les ai pas écoutés sur Bandcamp, je les ai écoutés par d'autres moyens et finalement, on donne quand même de l'argent à l'artiste.
Ouais, surtout depuis le contexte Covid, ils ont fait vachement de campagnes de dons. Je crois qu'on pouvait même ajouter un bouton à côté de son profil pour avoir des dons et... Ils ont vachement mis en lumière ce côté, soutenez les artistes si vous voulez.
Ouais, il y a eu des mois où ils ont retiré leur aussi, pourcentage, ouais. Ils l'ont fait plusieurs fois, où vous pouvez acheter des disques avec.
Ouais, c'est ça.
Là, la prochaine production qui va sortir, c'est quand? Là, du coup, le prochain EP sortira en 2021?
Ouais, alors du coup, pas trop de précisions sur quand en 2021. J'espère que ce sera cette année déjà, ce serait bien. Et juste avant l'EP, il y a un truc d'un peu plus certain, c'est que j'ai envie de sortir un single... qui sera normalement vers mai-juin. Donc voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, mais en tout cas, ça va refléter un peu le nouveau tournant dans mon projet. Là, en début 2021, j'ai rhabillé un peu tous mes réseaux sociaux, je me suis fait une nouvelle direction artistique, que ce soit visuelle et sonore. Comme je disais tout à l'heure, je me suis acheté des nouvelles machines, j'ai creusé mes influences, j'ai des nouvelles idées, donc on va dire que ouais, 2021, je vais approfondir un peu plus mes morceaux. Et du coup, le tout premier de cette lancée, ce sera milieu d'année.
On doit te retrouver normalement pour la Compiègne en lumière, c'est ça? C'est Compiègne en lumière.
Mmh, c'est ça.
C'est au mois de mai? Mars, avril.
C'est au mois de mars, là.
Au mois de mars, c'est un peu tendu pour peut-être, mais ouais. Normalement, tu dois jouer sur le parvis de l'UTC.
C'est ça. Normalement, c'est le deuxième week-end de mars. Donc, on attend de voir comment la situation évolue. On croise les doigts. Et si jamais ça a lieu, ce serait du coup sur la passerelle de l'UTC.
En position assise, sur des places,
je pense que tous les scénarios, pour l'instant, sont en train d'être évalués. Mais voilà, a priori, ce serait pour un live de 35 minutes, 40 minutes devant Compiègne, quoi.
Tu jouerais tes anciens morceaux ou tu jouerais certains nouveaux morceaux en exclusivité?
Alors un peu des deux, justement, là, c'est ce que je prépare pour cette année. En attendant d'avoir vraiment que des nouveautés et un live rodé un peu plus long, là, j'essaye de faire une alternative, mélanger les anciens sons qui me plaisent toujours autant et des nouvelles maquettes que j'ai envie de tester. Et voilà, pour faire un live format une grosse demi-heure, quoi. Un truc bien rodé qui mélange un peu tout. Donc ça, ce serait le type de live que je jouerais pour les prochaines dates jusqu'à milieu, fin d'année, quoi.
Est-ce qu'il y a des ambiances sieste musicale dans un endroit un peu de ouf, genre en forêt ou ce genre de choses? C'est quelque chose qui te botterait de pouvoir jouer dans des endroits un peu atypiques comme ça?
Ouais, carrément. Je consomme beaucoup tout ce qui est cercle, les live streams d'électro français, etc. Je sais qu'il y a une chaîne qui s'appelle Bolder aussi, qui met en avant les lieux exclusivement de la Bretagne, il me semble. Mais sinon, c'est le même principe que cercle, c'est de faire des live sets filmés, captés en direct. Donc ça, et puis le format sieste électronique qu'on retrouve beaucoup, ouais, c'est quelque chose qui me plaît vachement.
Dans la piscine, l'ancienne piscine de Compiègne,
par exemple.
Non, mais peut-être qu'on pourrait te proposer. On a acheté des transats graphite, une trentaine de transats graphite.
Et cet été, au bord de l'eau.
Ouais, c'est ça, on va proposer cet été, si tout se passe bien, à nouveau des siestes musicales et notamment des lieux un petit peu atypiques. On travaille un peu là-dessus, on espère que ça va se libérer, question Covid, mais oui, on bosse là-dessus, ouais. On pourra t'inviter avec grand plaisir.
Ouais, ça me plairait bien.
Là, aujourd'hui, donc il y a cette date qui va normalement avoir lieu au mois de mars, fin mars. Est-ce qu'il y a d'autres dates qui sont déjà prévues ou là, c'est bloqué de chez bloqué avec le Covid?
Ouais, pour l'instant, c'est un peu bloqué dans le sens où personne, côté artiste et organisateur et salle de spectacle, n'ose s'avancer, ce qui est compréhensible. Même dans l'association de l'Imaginarium, là, on galère un petit peu pour avancer les choses. Surtout qu'on attend les dernières directives qui sont censées arriver là, le 18, là, par la ministre. Donc, ouais, là, ça stagne un peu. Après, comme je disais tout à l'heure, l'accompagnement proposé par la gamme de Creil, je sais que ça me fera bénéficier de quelques programmations sur leur secteur à eux, parce qu'on s'entend bien et qu'ils veulent pousser un peu mon projet. Donc ça, c'est cool. Donc j'attends juste que les concerts reprennent et puis je pense que j'irai faire un tour, en tout cas dans la région, sur 2-3 dates.
On peut donner l'adresse du site internet?
Ouais, tout à fait. C'est www.abran.fr.
On écoute un deuxième extrait. Alors cette fois, c'est pas ton EP, c'est les remixes. On a écouté tout à l'heure Choral, le morceau original. On va écouter le morceau remix. C'est Adrobski. C'est qui cette personne?
C'est ça, c'est une rencontre d'Internet, hein, de Facebook, un jeune artiste français, je crois qu'il a mon âge. Très très cool, très talentueux. Il a un style assez différent, mais que j'aime beaucoup à écouter. Des sonorités un peu comme Flume, Bower, ces artistes-là. Donc il a su apporter un truc carrément différent à l'original et j'adore ce qu'il a fait.
Thank you.
à Brans sur les ondes Graphite 94.9, www.graphite.net. Également Facebook Live ce matin, si vous voulez faire un tour sur la page Facebook de la radio, allez liker la page de la liker la page Facebook de la radio. D'ailleurs, on a un petit compteur dans les studios qui évolue au fur et à mesure de vos likes. Vous pouvez également suivre, nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Twitter, Instagram, sur LinkedIn. On est un peu partout, donc n'hésitez surtout pas. Également, nous, il faut qu'on soit sur toutes les plateformes. Et notamment, vous pouvez écouter les podcasts sur PodCloud ou alors tout simplement maintenant, la matinale est disponible un petit peu partout sur Apple Podcast, Google Podcast, etc. Si vous ne nous trouvez pas, envoyez-nous un mail et on fera en sorte que vous puissiez nous trouver. On continue cette matinale, on va continuer de parler de musique. Là, comment tu as reçu les remixes? Il y a eu plusieurs remixes qui ont été envoyés pour le même morceau, tu as fait un choix?
Alors j'ai proposé à plusieurs personnes, je crois à une dizaine d'artistes, et en fait il y en a qui me disaient non tout de suite parce qu'ils n'avaient pas le temps ou que ça ne leur parlait pas. Et en fait, les quatre que j'ai reçus, en fait, c'est les quatre qui ont fini par me dire oui définitivement. Et ensuite, j'ai avancé que avec ces quatre-là. Donc, c'était plutôt bien parce que même ça aurait pu s'arrêter en cours de route ou finalement, ils ne le sentaient pas. Mais les quatre sont allés jusqu'au bout. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a un remix qui a été fait par deux artistes. On peut voir dans l'EP, c'est Blur Blur et Culture. Et en gros, donc moi, j'avais connu Blur Blur par Internet toujours. On s'était pas mal parlé, on s'entendait bien. Je lui ai proposé, il était chaud, et lui, typiquement, il avait bloqué un peu au milieu de la prod. Il n'avait plus d'idées, et en fait, il a proposé à un pote à lui qui s'appelle Culture, du coup, ils ont fini le son ensemble, et ils m'ont proposé, du coup, j'ai dit, bah ouais, carrément, c'est trop cool. Et au final, voilà, Culture, c'était aussi quelqu'un que je connaissais d'Internet et que j'appréciais beaucoup, donc c'était trop bien.
C'est facile de se faire déposséder un peu de son œuvre, que ça soit retrifouillé, dénaturé, remalaxé.
Ouais, je pense que ça dépend desquels. Je trouve qu'il y a dans un panel de morceaux, il y en a que tu n'as pas envie de donner en remix. Et d'autres, c'est plus facile. Et là, je pense que cet EP, ça faisait un moment qu'il était commencé. J'avais mis super longtemps à le faire, à le rendre un peu pro. Donc au final, le sortir sur les plateformes, c'était un peu m'en débarrasser et me dire « ça y est, ça c'est mon premier truc assez propre, j'ai envie de le sortir ». Et après, faut aussi prendre en compte que l'EP de remix, c'est aussi une opération de communication. Quoi.
C'est là qu'il y a une nouvelle vie.
Ouais, ça fait relancer l'EP. Du coup, les gens qui écoutent le remix, ils ont envie d'écouter l'original, etc. Donc,
Puis des fois, il y a des remix qui marchent mieux que les originaux.
Oui, carrément. Bah, c'est fréquent même. Et du coup, là, c'était un mélange de tout ça, toutes ces envies. C'était l'utile et l'agréable en même temps. Du coup, en fait, tout s'est bien passé. Et je suis resté pote avec les cinq artistes, du coup, qui m'ont fait un remix et voilà, tout s'est bien passé.
Il y a un côté très cinématographique. Est-ce que tu aimerais faire de la musique pour l'image, pour le cinéma?
Ouais, carrément. Mais je sais que c'est un monde un tout petit peu à part. Il y a vraiment des gens qui font que ça. Même je sais que dans l'industrie, dans les labels et tout, il y a des labels vraiment que de publishing, comme on dit, de synchronisation. Donc synchroniser l'image et le son. Donc je sais que c'est une autre technique, d'autres contacts, d'autres gens, mais c'est un truc qui m'attire carrément parce que j'ai plein d'images en tête quand je fais de la musique, l'électronique ambiante, ça colle à plein d'univers cinématographiques, plein d'images, et surtout il y a plein d'artistes que je suis et que j'adore et qui font ça aussi. Là je pense très récemment il y a Tilassine qui vient de signer la BO d'un film qui s'appelle OVNI, un truc qui a l'air hyper expérimental, hyper décalé, mais je trouve que ça donne trop envie de faire ce genre de choses, donc j'en ai pas l'opportunité pour le moment. Mais si un jour ça se présente et qu'on me propose de faire ça, je serais carrément chaud.
Et qu'on prenne ton morceau pour une pub, tu serais chaud parce que là, quand on passe à On My Shoulder de The Do, en fait, moi, dès que je l'entends, maintenant, je pense au Kelly Oxford.
Ouais,
je pense plus à On My Shoulder. Quoi.
Ouais, bah ça, je pense...
Paye le loyer, quoi.
C'est ça. Ce que j'allais dire, la synchro, c'est un truc qui rapporte vachement, donc je pense que c'est très attirant que si un jour on te propose... Après, je pense que je me fixerai toujours une limite. J'aurais pas envie que ma musique tombe sur une pub de n'importe quoi. Mais sinon, dans l'idée, si la pub me plaît et qu'on me propose de choper ma musique dessus, je dis oui direct.
Ouais, y a des artistes qui, en fait, refusent pas la synchro, mais donnent des tarifs de ouf pour que peut-être qu'un jour ça marchera. Et
ouais,
que...
c'est ça.
Donc, ça serait quoi les pubs que tu refuserais?
Bah, que je refuserais. Bon, déjà, je me vois pas là tout de suite refuser une pub.
C'est
pas...
bien, au moins comme ça, si quelqu'un qui fait de la pub nous entend. Ouais.
j'en ai pas la légitimité pour l'instant, mais ouais, disons que ça dépendra de ce qu'on me propose. Mais globalement, je suis ouvert à l'idée. Et du coup, si ça peut se reprocher plus de l'univers cinématographique, c'est un exemple tout con, mais je pense, par exemple, les pubs de voitures. Elles sont très souvent filmées comme des films avec des slow motion, des drones et tout. Et cet esprit-là irait bien avec ma musique. Alors même si ma musique ne va pas forcément avec des voitures, c'est l'idée de pub qui collerait.
Et c'est vrai que les pubs de voitures, les pubs de parfums, souvent c'est des gros gros budgets. Enfin, c'est quand même compliqué de revendre une nouvelle voiture en disant ma voiture elle est mieux que celle d'à côté. Souvent, ouais, il y a des énormes productions, quoi. Puis ouais. Des belles images aujourd'hui avec du drone, etc.
Ouais, ouais, c'est beau. Ouais.
C'est quoi les films que t'aimes au cinéma? Est-ce que t'es consommateur de films?
Ouais, alors je vais très peu au cinéma parce que je suis de la génération Netflix, quoi. Mais je regarde beaucoup sur Netflix, sur MyCanal, soit des séries françaises, mais pas tout.
Mimi Mathy, Ange Gardien.
Ouais, non, pas ça. Non, je suis plus, pour rester un peu dans l'univers musical, validé, par exemple. Et puis sinon,
donc là, c'est sur le hip-hop.
Ouais, c'est ça. Et puis surtout, ça, on montre l'intérieur des maisons de disques d'Universal, puisque Omega dans la série, c'est Universal.
Bah, c'est, vrai,
okay. C'est les vrais locaux et tout, donc j'ai reconnu là où je bossais, donc c'était marrant. Et puis sinon, ouais, je pense que je suis plus série peut-être que film et je regarde un peu. En fait, par curiosité, je vais voir ce qui marche et ensuite, c'est soit j'arrête tout de suite parce que moi ça me plaît pas, soit j'accroche et je vais jusqu'au bout. Là, la plus récente, c'est Lupin et j'ai vachement accroché donc j'attends la suite.
Ouais, moi j'ai arrêté. Mais validé, non, c'est bien, hein, même la musique, musicalement, c'est pas mal. Ouais. On a rentré le titre validé, je crois, dans la prog de Graffiti. Ouais. Ouais, franchement, il est vraiment cool.
Ouais, c'est vraiment cool. Hein.
J'espère qu'il y aura. Normalement, je crois qu'il y a une saison 2 qui va arriver.
Je crois que c'est prévu pour cet été. Alors, avec le Covid, je sais pas, mais j'attends ça avec impatience.
Et question art, est-ce que tu vas dans les musées? Est-ce que tu vas voir des expos? Est-ce que tu es attiré par certaines? Puisque c'est vrai que ta musique, moi j'entends la musique, enfin je vois la musique en couleur. Du coup, je trouve qu'il y a vachement de trucs qui pourraient rentrer dans un tableau. Est-ce que toi tu vois ça un peu comme ça? Est-ce qu'il y a des artistes que tu aimes bien?
Ouais, carrément. Déjà, le fait de faire mes études et mon alternance à Paris, ça m'a fait découvrir forcément la vie culturelle.
Et puis ta formation, c'est vrai.
Parisienne, ouais, c'est ça. Et puis avec ma formation, du coup, j'ai une carte étudiante monde de la culture, là. Donc j'ai accès à pas mal de trucs. Et ouais, j'adore faire ça. Je suis pas mal abonné au Centre Pompidou. J'y vais souvent. À l'Atelier des Lumières aussi.
C'est où l'Atelier des Lumières?
C'est Paris, à côté du Marais.
D'accord.
Et c'est une exposition en fait, qui projette sur tous les murs de la salle, donc même plafond et sol, vraiment tous les murs, avec plein de vidéoprojecteurs, des œuvres d'artistes connus, par exemple.
Moi, ah oui, il y avait Monet, tout
ouais,
ça, c'est ça. Ça.
Moi, je suis allé faire justement l'exposition Les Impressionnistes. Du coup, il y avait Monet, Renoir, tout ça, et tout est projeté, animé et mis en musique avec un super son dans la salle. Et tu te balades dedans, donc c'est trop bien. Et la dernière que j'ai fait en date, c'était la Gaîté Lyrique, que j'adore aussi, c'était Faircore. Et ça, typiquement, elle m'a attiré parce que, justement, c'était des visuels et des sculptures, et des structures qui, pour moi, me parlaient dans la musique aussi. Je m'imaginais des visuels ou des scénographies derrière un DJ ou derrière un artiste en live qui avait la même apparence que ça. Et en fait, c'était globalement une expo que en noir et blanc, soit des formes abstraites, soit des nuages de points ou des neurones dans tous les sens et tout. Et pareil, il y avait beaucoup de projections, de sculptures, de déformations, tout en noir et blanc, donc plongé dans le noir, dans la Gaîté Lyrique, avec des faisceaux dans tous les sens. Et c'est le genre de truc immersif que j'aime trop et qui est très souvent accompagné par de la musique.
La Gaîté Lyrique, c'est la salle qui est dans le 18e, là, entre Barbès-Rochechouart, ou c'est la salle carrée vraiment.
C'est la salle carrée à côté d'Opéra.
Ouais, c'est ça, Grand Boulevard, tout ça. En gros, qui est vraiment une salle faite pour la musique électronique. Souvent, il y a des concerts de musique électronique.
Ouais.
En fait, c'est une boîte dans une boîte, quoi.
C'est ça, ouais. Ils ont plusieurs salles carrées sous forme de boîte et je sais qu'ils accueillent, ils ont accueilli en tout cas plusieurs années le Arte Music Festival qui se finit par une soirée électro-techno. Où a joué notamment Thomas Henbeek, je sais plus quelle année, mais il avait fait un live sous son projet Gordon et un live sous son projet To Imago dans le cadre du Arte Festival avec Infine. Et ça, c'est le genre de format que j'adore.
C'est quoi les clubs qui te font rêver ou t'aimerais bien jouer?
Moi, j'aime bien l'esprit des clubs berlinois. Alors forcément, pas forcément jusqu'au Berghain, mais j'aimerais trop jouer dans les petits clubs de Berlin comme le About Blanc ou un peu plus gros, le Trésor, qui sont des clubs où je suis allé en tant que client et que j'ai adoré. Après, là, c'est vraiment de la techno qui secoue, quoi. Donc, je ne sais pas si mon projet correspondra un jour, mais dans l'idéal, ce serait un rêve à réaliser. Et puis après, à Paris, il y a vraiment une scène électro que j'aimerais intégrer, ou même pas forcément les clubs, mais les lieux un peu culturels comme le Point Éphémère, le Hasard Ludique, etc. Faire des trucs, même en fin de journée, un peu open air et tout. C'est assez à la mode en ce moment et j'aimerais bien faire ça.
Sur les quais de Seine ?
Ouais, par exemple aussi.
On écoute le titre avec Blur Blur et Culture Mix. On okay. écoute ça, on se retrouve juste après. Radio Graphite 94.9, la matinale, on est presque à la fin de cette émission. Toujours en compagnie d'Abran pour parler de son projet électro, de ses EP, et notamment là d'un morceau remix. Donc on a écouté ce morceau avec Blur Blur et Culture Remix, et tout à l'heure tu nous as expliqué un petit peu l'histoire de cette rencontre. Est-ce qu'il y a des artistes que tu aimerais bien remixer ou que tu aimerais bien qu'ils te remixent ? Est-ce que s'il a été écouté
Je sais que... Dans le label Infiné, par exemple, il y a des trucs que j'aimerais beaucoup faire si un jour j'ai l'accès et l'occasion. Mais déjà, sans viser trop haut, dans les connaissances plutôt, j'aimerais bien faire un truc avec Toho Imago, donc Thomas Inbig de Cray. C'est vraiment cool parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait et puis du coup, il est plus accessible par rapport à mon projet. Mais voilà, sinon, il y a des feats un peu de rêve qui arriveront jamais, mais il y a des artistes que j'aime trop en France comme Rhône. Mais voilà, ce serait le rêve quoi.
Tout à l'heure tu parlais de l'Imaginarium Festival, tu fais partie de l'association organisatrice ou c'était ton coloc?
Non, ça je fais partie de l'asso encore, enfin depuis 4 ans j'y suis, donc j'ai bougé de team en team et là cette année je suis en programmation.
D'accord. Voilà. Donc déjà, tu peux nous donner des indices sur les artistes. Hein. Bah là, je crois qu'il y a déjà des artistes qui sont déjà annoncés.
Il y a deux vagues qui sont déjà en ligne et ce que je peux dire, c'est que la troisième arrive bientôt.
Et c'était quoi, du coup, les deux vagues? Tu te souviens des vagues qui ont été annoncées ou...
Ouais. Alors la première, c'était la vague des reprogrammations. C'est les seuls artistes qu'on a repris de l'année dernière. Donc c'était Vladimir Cauchemar, Oboy et Yuxek.
Yuxek, c'est en DJ set ou en...
C'est en DJ set, ouais, il me semble. Ouais, c'est en DJ set. Et voilà. Et la deuxième vague, j'ai peur de dire des conneries, du coup, je...
J'ai French79, alors je connaissais pas ça. Il y a Poupi, Capitaine Roshi et Dark Tech.
Ouais, voilà, c'est Dark Tech pour un sacré closing. Et French79, bah, c'est un live électro avec plein de machines analogiques. Un mec de la French Touch, donc c'est super cool de l'avoir.
On aura dû te laisser dire pour que tu nous sortes les artistes qui vont arriver sur la troisième vague.
C'est pour ça que je suis pas mouillé.
Il y a des artistes que... Enfin, comment ça se passe la programmation? C'est une programmation collégiale? Comment vous travaillez? Chacun ramène... Parce que souvent, en plus, vous travaillez avec des tourneurs. Des fois, pour négocier des prix, demander à ce qu'on prenne un deuxième artiste de leur roster. Comment ça se déroule pour...
Bah déjà, là, vu qu'on en est à la 8e édition de l'IEF, du coup, bah, forcément, on garde un peu les mêmes contacts d'année en année
Floride,
chez les tourneurs. Allo Floride, par exemple. Du coup, en fait, on reprend un peu le carnet d'adresses de l'année d'avant. On regarde les rosters mis à jour sur leur site ou dans les archives des mails pour voir de quels artistes ils s'occupent cette année, si ça a changé ou si c'est toujours les mêmes. Et ensuite, nous, la team programmation, on est 4-5 et on se dispatche un peu par style et par affinité d'artistes aussi. Et on envoie plein de mails en fait aux agents, aux boîtes de tournée de chacun de ces artistes-là. Et ensuite, selon la réponse, il y en a qui ne sont pas dispo, qu'on élimine. Et ensuite, on avance dans la négociation de plus en plus. Après, on parle caché, après, on parle administratif, jusqu'à ce que ce soit OK des deux côtés. Et puis après, c'est bon, on signe.
Ouais, du coup, c'est bien. Tu vois aussi, toi, le côté un peu fabrication à l'intérieur pour pouvoir négocier tes futurs cachets.
C'est trop cool parce que là, je gravite autour de plein de faces.
Bah oui, entre le label, la création du...
C'est ça. Du coup, j'aime bien voir un peu tout.
Il y avait un tremplin, t'as participé au tremplin ou
Alors j'ai participé au tremplin pour l'édition 2017, du coup c'était en décembre 2016 avant le Festoche, et ça c'était avec mon duo French Kiss, donc avec Cédric Thieffin qui est encore présent dans Elsa du coup, mais c'était mon tout premier groupe et on avait fait le tremplin Musico et on avait remporté du coup le prix du jury il me semble et on avait joué notre premier vrai live sur scène sous le chapiteau de l'Imaginarium en 2017.
Mais maintenant je crois qu'on a, faudrait que je vérifie, mais je crois qu'on a le live.
C'est possible.
Je crois qu'on a récupéré, enfin on a toujours des problèmes avec les récupérations des lives du chapiteau, mais il faudrait que je vérifie dans nos archives.
Il me semble que ça avait été filmé dans tous les sens pour regarder.
Mais je crois que nous on avait fait une capta, il faudrait que je regarde ça. On a tellement de disques durs qui... Mais bon, si... On va peut-être essayer de le retrouver. Donc là, la candidature du tremplin pour l'IEF, c'est actuellement, c'est prochainement?
Alors, on a déjà fait le tremplin
rock
automne. Alors maintenant, avant, c'était tremplin électro et tremplin rock. Et maintenant, c'est deux tremplins mixtes pour accepter tout le monde tout le temps, quoi. Du coup, ça fait deux éditions que c'est comme ça. Mais bon, l'année dernière, on n'a pas pu. Du coup, là, on a passé le tremplin automne, qui s'est déroulé en distanciel, en ligne. Donc, on a reçu des candidatures vidéo ou des liens, des musiques, des candidatures. Et ensuite, on a fait notre choix et ils ont bénéficié d'un peu de com pour les gagnants. Et là, on essaye de prévoir le tremplin printemps en présentiel en essayant, il me semble, de faire passer cet événement comme un concert pilote dans le cadre des mesures sanitaires. Donc, en fait, on attendait plein de réponses à droite à gauche. On est encore sûr de rien. Et a priori, si ça se fait, ce sera potentiellement en présentiel. Donc voilà, on croise les doigts.
Ouais, parce que jeudi dernier, on a enregistré, on a été voir les Inouïs du Printemps de Bourges, les sélections physiques. Donc il y a 30 professionnels qui se sont réunis à Saint-Quentin pour sélectionner les représentants qui vont représenter les Hauts-de-France, enfin la Picardie, pas les Hauts-de-France, la Picardie, pour l'édition du Printemps de Bourges cette année. Là, pour l'Imaginarium Festival, on rappelle les dates, c'est le 22-23 mai 2021. Ouais. Il y a déjà des espèces de pré-ventes. Alors parfois, allez faire un tour sur la page Facebook. Il y a eu des appels, je crois pour la Saint-Valentin, on pouvait avoir des prix, il y a des espèces de early bird qui arrivent parfois, donc connectez-vous pour avoir certains prix.
En tout cas, la billetterie est en ligne officiellement. Donc,
l'année dernière, c'était complet.
L'année dernière, enfin, l'année d'avant, c'était la dernière édition qu'il y a eu, ouais, c'était la première fois que ça a été complet. Donc bon, là, je pense qu'en vue de la situation, la jauge festivalier sera revue à la baisse, donc il y a moyen de faire complet aussi. Mais voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez dès maintenant acheter vos places.
On va écouter un dernier morceau pour se dire au revoir. Quel morceau tu souhaites jouer dans ce que tu m'as ramené ? J'ai Johns Hopkins, Moderat ou Polaroid ? Polaroid, comment
on
se dit ?
Polaroid, ouais, bon, Polaroid. C'est des Allemands, donc je sais pas trop comment on prononce, mais on peut s'écouter Moderat pour finir.
Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. On espère te retrouver très prochainement, peut-être du coup à Compiègne en lumière. Ça sera donc au mois de mars.
C'est ça.
La date, tu l'as de tête ?
C'est le 13 mars normalement.
Ok, et bah, pour la suite, on te suivra sur Internet.
Ouais, bah merci beaucoup, puis avec plaisir.